Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC.
Mount the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC. C'est la fin de saison, il se passe plein de trucs. On est en pleine finale NBA. Il y a eu la finale de l'Euroleague ce week-end. Les JO approchent, la préparation des Bleus. Il y a encore plein d'épisodes fantastiques à retrouver tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Mais on reste sur les finales NBA avec cette semaine Arnaud Valadon, Frédéric Weiss et Félix Gabory. Salut les gars.
Salut Pierrot.
Salut tout le monde.
On aurait presque pu sortir de la NBA cette semaine. Le Pana quand même, quelle équipe Fred.
Très belle équipe.
Sloukas,
incroyable.
En fait, les Costas ont été très bons.
Champion
NBA, champion de l'Euroleague, donc vainqueur de l'Euroleague, et champion du championnat de France. Costas Antetokounmpo. Antetokounmpo. Bon, peu importe. Lui.
Costas.
Bon,
et Mathias Le Sort.
J'ai cru que tu voulais nous parler de Costas Mitroglou de l'OM, mais non, heureusement. Bon. Alors, donc, on reste sur les finales NBA avec le programme suivant. On n'a pas encore la finale Dallas-Boston, mais bon, on a peu de doutes quand même. Donc, nous allons démarrer par le comparatif Kyrie Irving-Luka Doncic d'un côté, Jaylen Brown-Jason Tatum de l'autre. Qui a le meilleur duo, Boston ou Dallas? Nous allons ensuite continuer sur l'Ouest. La NBA est-elle trop dure avec Rudy Gobert? Rudy Gobert qui sera critiqué jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et cette fois-ci qui a été moqué par Luka Doncic. C'est pas bien de se moquer.
Bon, c'est un peu le style, c'est un sale gosse, Luka Doncic.
Il se moque de tout le monde.
Oui. Après, il a été un peu insultant et ça m'a plus dérangé. Moquer, c'est pas grave, insultant, ça me dérange.
Donc la NBA est-elle trop dure avec Rudy Gobert? Et puis, dans la partie historique, vous allez nous rafraîchir la mémoire avec les équipes qui ont été tout près de remonter un 3-0. Parce que c'est arrivé, des équipes qui étaient vraiment pas loin. Je vous rappelle que dans l'histoire, jamais personne ne l'a fait et que cette année, bizarrement, les finales de conférence se sont retrouvées toutes les deux à 3-0. Il reste un match à l'Ouest peut-être pour changer cette direction-là. Dans le quiz, nous allons refaire la carrière de Bill Walton parce que c'est quand même un monument de la NBA qui s'est éteint. Voilà, et comme on n'en parlait pas dans le podcast, dans les débats, on va en parler dans le quiz. Pourquoi tu rigoles, Fred ?
Je ne suis pas un grand spécialiste de Bill Walton.
Non, mais tu es un grand fan quand même. Tu aimes le personnage.
Bah, évidemment.
On en a déjà parlé.
Évidemment.
Alors après, c'est vrai que ça remonte.
Ça remonte un peu.
Si vous avez suivi l'actualité, ce ne sera pas difficile. Voilà.
Ah,
si
c'est
vous
de l'actualité sur Walton en plus.
Non, mais il y a du Bill Walton et il y a des playoffs dans le quiz.
Ok.
C'est parti. Donc, vous êtes dans Basket Time, votre rendez-vous basket à retrouver tous les mardis sur rmc.fr.
Can Conley guard Kyrie Irving? Remember, no Anthony Edwards. What a play. Elegant shot for Kyrie Irving. Brown, see if this one goes. It's good. Brown comes right back with a three. And it's four again. Doncic. Irving for the lead. Got it. What a shot. Dallas has taken the lead.
Rudy Gobert had zero chance in contesting this shot here by Luka.
Made it one-on-one with Turner, who's got five fouls. Step back, three pointers up. It's good. Jackson Tatum from downtown. That's it. It's over. The Celtics are heading back to the NBA Finals. And another crushing finish for these Indiana Pacers.
Je vous annonce un grand basket time parce qu'on a un Fred Weiss qui est fatigué par les playoffs et qui est donc sur les nerfs, qui va se chauffer normalement sur chacun des débats et même dans le quiz, tu vas le chauffer Fred.
Ah mais je suis déjà chaud là.
Voilà,
je suis en débat.
Je sais pas si c'est Félix, si c'est Arnaud ou moi qui va prendre.
T'as vu, j'ai changé de place, je me suis mis un peu plus loin, j'ai laissé Félix à côté de Fred.
Quel dommage qu'on ait pas Sacha aujourd'hui.
Alors, ça
aurait pu finir en bagarre. Alors on va démarrer donc avec ce premier débat. Les finales de conférence sont à sens unique puisque Boston a sweepé Indiana. Dallas mène 3-0 et a peut-être l'occasion de finir à domicile cette série la nuit prochaine. Qui a le meilleur duo? Dallas avec son backcourt Kyrie Irving, Luka Doncic, qui sont déjà quand même des joueurs légendaires de la NBA. Ou Boston avec ses deux gâchettes, Jason Tatum et Jaylen Brown. Jaylen Brown, élu MVP de la finale de la conférence Est à l'issue du match de la nuit dernière. Jaylen Brown qui est absolument fantastique dans ces séries.
Le franchise de... Le franchise player.
Il est déjà chaud. Il veut déjà chauffer les admirateurs de Jason Tatum. Je sais que tu as fourbi tes armes, mais d'abord tu vas écouter Arnaud Valadon. J'écoute. Il y a quelques chiffres à nous donner.
Sur ces finales de conférence, en moyenne de points par match, si on cumule Irving et Doncic, on tombe à 60,4. Si on fait la même chose avec Tatum et Brown, 60,1. Des duos omniprésents, hyper efficaces. Irving shoot à 52%. Luka a amélioré. Hein. C'était compliqué en début de playoff. Là, sur cette série, il est à 46% au tir à Boston. C'est Brown qui shoot à plus de 50%, 51%. Et tu l'as dit, il a décroché ce titre de MVP de la finale de conf, ce qui ne manque pas de faire causer. Et alors, statistiquement, si on regarde les duos, la meilleure paire, c'est Irving Doncic avec un net rating de 10, c'est-à-dire le rating offensif, nombre de points sur 100 possessions, opposé au rating défensif, nombre de points pris sur 100 possessions. Brown Tatum, c'est à 8. C'est quand même pas loin, c'est très serré, donc deux duos quasi autant décisifs.
Très bien. En termes statistiques, en tout cas, après, il y a l'influence dans le jeu, et c'est vrai que pour ça, bon, Luka Doncic est assez exceptionnel là, dans ses playoffs. Je vais pas te demander à Fred de démarrer, parce que j'ai l'impression qu'il va arracher la gueule de quelqu'un comme ça gratuitement tout de suite. Tiens, Félix, vas-y, lance-toi. Qui a le meilleur duo ?
Déjà, par rapport au stats, c'est vrai qu'on voit que c'est tous les deux duos sont très proches. Mais je trouve que moi, chez Kyrie et Luka, il y a un côté magique qui sort de ce duo un petit peu plus. Les deux autres, les Jay Brothers, c'est un peu le côté, c'est un peu le côté clinique, l'efficacité
propre,
exactement, mais un peu comme de toute façon à l'image, un peu du collectif de Boston, bien huilé.
Et de la franchise, allez dire Fred.
Oui, bah bien sûr, la franchise de Boston.
C'est vrai qu'on s'en dit un peu.
Mais quand même, pour revenir sur Kyrie et sur Luka, il y a un truc vraiment magique, un truc hors norme. On aime les voir jouer. Bah, Luka, tout le temps, pendant les 4 quarts temps, il est monstrueux. Et bah, Kyrie, en 4e quart temps, là, sur le Game 3, il est juste incroyable. Et voilà, moi je trouve que la différence, elle se fait vraiment là-dessus, sur le côté ressenti de quand tu vois les deux duos jouer.
Arnaud, tu as l'air de valider totalement.
Oui, totalement, parce que quand tu vois Luka Doncic sur un terrain, tu ne sais pas ce qui peut se produire. Il t'invente des choses, il fait des choses incroyables. Là, son game winner sur Rudy Gobert, la façon dont il est clutch. Et puis moi, j'ai toujours adoré Kyrie, parce qu'avoir une telle qualité pour un guard avec du volume, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de tirs, c'est propre. On en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est juste incroyable. Je suis surpris que ça marche autant, parce que quand je me réécoute un peu, j'avais quand même dit qu'il passerait pas les Clippers. Je me suis totalement planté,
mais en même temps tout le monde le pensait, hein. Objectivement, là je vais te donner raison, j'ai dit la même chose. Tu te dis que cette équipe, elle peut pas fonctionner, t'as deux mecs qui bouffent le ballon. Et finalement, ils trouvent des.
Et chacun est dans son rôle. Moi, je trouve même Kyrie. Alors là, Luka a vraiment rectifié le tir sur cette série face à Minnesota par rapport à son début de playoff. Même si à la création, il était encore là. Mais je trouve Kyrie d'un niveau exceptionnel en ce moment. Et c'est vrai que les Jay des deux côtés, j'ai toujours dit que j'avais de la sympathie pour Boston. Mais c'est ce côté, un peu lisse. Alors on voit aujourd'hui que Brand prend peut-être un peu le plat sur Tatum, même s'il reste à 30 points par match, Jason Tatum, et que finalement, c'est pas tellement le duo Brand-Tatum qui est fort à Boston, mais c'est quand tu rajoutes un Derrick White encore décisif, un Jrue Holiday qui monte en puissance.
Tu peux dire pareil du secteur intérieur de Dallas.
Bah, pas tellement.
C'est aussi parce que Dallas a trouvé des intérieurs qui se retrouvent en finale.
Des mecs de devoir.
Oui, mais pourquoi ? Parce que tu as deux créateurs fantastiques qui peuvent mettre en avant ces intérieurs.
Oui,
ces intérieurs, quand ils étaient ailleurs, ils n'étaient pas aussi dominants.
C'est pour relativiser l'argument de d'Arnaud que je dis ça. Une équipe ne fonctionne jamais qu'avec deux joueurs. Ça serait trop facile. Évidemment qu'il faut d'autres talents ailleurs, évidemment. Mais si tu me dis c'est grâce à Jrue et Derrick White, bien sûr. Mais si tu n'as pas Gafford et Lively qui ont nettement augmenté niveau de jeu, et surtout ce secteur-là chez Dallas, tu n'as probablement pas de finale. Donc,
Oui, mais tu sens qu'à Boston, si tu n'as pas les autres autour, ça ne passera pas. Alors que ils n'ont pas besoin de mettre 15 points, les Washington,
quand Luka était seul, ça ne passait pas.
Là, il est plus seul.
Oui, mais bon, c'est un peu un raccourci que tu fais là quand même. Derrick White, c'est pas quand même l'option numéro 1 de Boston, même s'il fait une super finale.
En fait, je pense que tu te trompes. Je pense qu'à vraiment à Boston, et c'est peut-être pour ça que moi j'ai du plus de mal à accrocher avec cette franchise, c'est justement parce que tu sais pas qui est le boss de cette franchise en fait. Alors concrètement, quand tu regardes les stats, oui, bien sûr, il y a Jaylen Brown, bien sûr, il y a Tatum, t'as un duo qui est au-dessus, sauf qu'il y a des moments clés. C'est bien de marquer 30 points par match, mais il y a des moments clés dans un match. Et parfois, je suis d'accord, parfois c'est White, parfois c'est Jrue Holiday.
Comme Steve Kerr a fait gagner les Bulls de Jordan, je vois pas où est...
Ça, c'est ultra ponctuel. Non.
Je vois pas où est le paiement, en fait.
Non, dans le même match... il peut se passer ça. Sauf que Steve Kerr, là, ça lui est arrivé par miracle. Lui-même, il en est parvenu. Il
raconte Michael anecdote, a bien dit, vas-y, prends le tir.
Voilà, rappelle-toi, il a raconté une anecdote par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'était pas habituel pour lui. Donc, alors que de l'autre côté, ben, concrètement, à la fin, oui, logiquement, le ballon va arriver sur un des deux. Mais s'il arrive sur un autre, ce n'est pas un problème. Du côté des Mavs, si ça n'arrive pas sur Luka Doncic ou sur Kyrie, c'est beaucoup plus compliqué de finir.
Ah, t'as PJ Washington qui a mis des gros coups de gros shoot, c'est un peu la même situation.
Pourquoi ?
Ça, c'est sur quand il double.
Parce que c'est créé par les deux autres. Parce qu'ils aspirent tellement le jeu. En quatrième quart-temps, ils sont ultra dominants. Et c'est là que les points comptent. Alors oui, c'est très beau de marquer 30 points par match, encore une fois. Mais les marquer dans les moments où ça compte, dans le money time, c'est beaucoup plus important.
Oui, enfin, la nuit dernière, si c'est pas Jaylen Brown et Jason Tatum qui ont pris les choses en main dans le money time, tu m'excuses.
Bon, Derrick White.
Giroud a été énorme. Soit, mais les gros shoots qui les a pris, c'est quand même ces deux-là, Fred. Ils étaient à moins 9. T'as Jason Tatum qui prend 2-3 points monstrueux et Jaylen Brown qui finit. Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Alors là, j'avoue, je comprends pas.
Alors, je suis pas complètement d'accord, mais juste pour revenir à ta question initiale, pour savoir lequel des duos est le meilleur, c'est difficile de répondre. Parce que d'un côté, on a un duo uniquement offensif, j'ai envie de dire, parce que défensivement, c'est quand même un peu plus faible et c'est bien compensé par derrière. Et de l'autre côté, on a un duo qui est offensivement fort, mais moins créateur, mais par contre, défensivement, bien supérieur. Donc c'est difficile de les comparer par rapport à ça. Mais si maintenant, je devais partir à la guerre, je partirai à la guerre sans aucun problème.
Mais la question,
parce qu'ils sont clutch, parce que les moments chauds, ils sont là. Et je suis pas. Et tu vois, Jaylen Brown est capable de se transcender. Regarde, je sais pas si tu as bien regardé le match hier, parce que moi, je l'ai vu. Jason Tatum, il se met en retrait. Et il rate les shoots importants, justement. C'est Jaylen Brown qui fait la différence.
Bah écoute, quand ils sont à moins 9, s'ils mettent pas ces 2-3 points, il n'y a plus de
match.
Mais
quand tu es à moins 9, c'est facile de mettre des shoots quand tu es derrière.
Mais sauf qu'il reste 2 minutes.
En fait, la différence, c'est marquer les paniers qui permettent de passer devant. Et ceux-là, bah, je suis désolé, Tatum a tendance un petit peu à se mettre en retrait, alors que Jaylen Brown se met en avant.
Félix.
C'est aussi bien, des fois, quand tu es un leader comme ça, à contester ton équipe, de pouvoir laisser de la place à tes coéquipiers. C'est quand même
faux.
Est-ce qu'il est incontesté ?
Faux. Parce que déjà, oui, effectivement. Est-ce que c'est le leader incontesté quand c'est Jaylen Brown qui est le MVP des finales, de 1 et deuxièmement.
Ça montre à deux têtes, quoi. Mais...
Et deuxièmement, je suis désolé. Quelles sont les principales critiques pour Tatum ?
Le problème, c'est que tu personnalises la question, alors que la question porte justement sur un duo. C'est bien la complémentarité des deux duos qui est en question. Et pour moi, la complémentarité Brown-Tatum, elle est terrifiante pour les adversaires, justement parce que tu sais jamais d'où ça va venir. Et que c'est pour ça que c'est si difficile à les arrêter.
C'est le contraire. Honnêtement, pour moi, la complémentarité dans les derniers moments, dans les derniers instants, cette capacité de shooter, de créer, de pénétrer, de provoquer les fautes est bien plus importante du côté de Kyrie et de Luka que du côté de Tatum et Brown.
Alors après, que je suis d'accord avec Félix sur le côté magique, que ces deux-là aient plus de talent et soient plus imprévisibles, c'est, je pense, incontestable. C'est même pas à débattre. En revanche, ce qui plaide en faveur du duo de Boston, c'est la longévité.
C'est ce que j'allais dire.
Luka, tu sais pas non plus si à un moment ça peut pas voler en éclats.
Là, ça marche sur les playoffs. Parce
que ça a marché sur une période très courte pour l'instant. C'est le seul bémol qu'on peut avoir.
Pierre, je peux pas te donner raison, parce que moi j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer. Je te dis juste s'il est en train de se passer. À l'instant T, si je dois faire confiance à un joueur ou à deux joueurs, donc un duo sur les derniers moments, ben je n'hésite pas.
Donc,
je vais
donc
directement
Dallas du côté... favori pour toi, du coup.
Non, ça n'a aucun rapport. Parce que du côté de Boston, je trouve qu'on est mieux accompagné, qu'il y a des joueurs plus importants autour. Les Jrue Holiday, les Derrick White sont plus impressionnants,
et
peut-être.
Et si Porzingis revient.
Et si Porzingis revient, effectivement. Mais concrètement, s'il n'y a que ces deux duos, ces deux duos à affronter, pour moi,
Après, clairement, le juge de paix sera, si c'est cette finale, parce que je ne vois pas comment on ne va pas aller vers un Dallas-Boston. Imagine, Luka et Kyrie s'imposent. Qu'est-ce qu'on va dire du duo de Boston, qui a quand même connu des soubresauts. On a dit, ah, ça ne va pas marcher. Finalement, ils insistent. Ils font finale il y a 2 ans. L'année dernière, ils perdent. De façon, on en reviendra, je crois, tout à l'heure dans la partie historique. Et on va encore se reposer les questions. Est-ce qu'il ne faut pas éclater ce duo entre Tatum et Brown ? Ce qu'on ne se posera pas, quoi qu'il arrive, pour le duo Kyrie-Luka.
Ouais, ça ne marchera pas Milan non plus à Dallas, hein, le duo Kyrie-Doncic. On sent que, vu en plus les tempéraments des deux gars, ils l'ont prouvé dans leur carrière, que c'est des égos pas faciles à gérer.
Je crois que Kyrie est venu en grand frère, là. Je pense qu'il est venu en grand frère. En tous les cas, c'est ce qu'il est en train d'afficher jusqu'à maintenant. Alors effectivement, Kyrie, on ne sait jamais. Lui, il peut dire que la terre est plate d'un seul coup et péter les plombs. Je suis d'accord. Sauf que j'ai vraiment l'impression, et c'est l'image qui rejaillit de cette équipe là, c'est justement qu'il s'est mis en grand frère. Le boss de l'équipe, c'est Luka, et moi je me mets en retrait. Quand on a besoin de moi, je vais le faire, le job, parce que les quatrièmes cartons, c'est mon taf. Mais franchement, il est moins dans une optique d'être numéro 1.
Après, excuse-moi Arnaud, mais exploser un duo qui va tous les ans en finale, c'est quand même un risque. Hein. C'est-à-dire que je veux
ouais,
bien...
mais tu gagnes pas.
Oui,
ouais,
d'accord.
Sauf qu'ils ont plus trop le droit.
Mais comment tu gagnes mais comment tu gagnes si tu en gardes un des deux? Est-ce que tu es sûr que ce sera mieux? C'est compliqué.
Non, mais tu traites pour faire autre chose. Mais je suis d'accord avec toi. Tu peux te dire, bah, si tu vas en finale tous les ans, tu finiras bien par en gagner une. Mais
Du moins, ça vaut le coup d'insister. C'est pas comme quand tu détruis un duo ou un trio qui passe pas exactement. Là, t'as pas de question à se poser. Ce qu'a fait Dallas 1000 fois d'ailleurs, hein, avant de.
Mais ça serait pas la première fois que ça ne marcherait pas.
Parce que il y a une certaine cohérence quand même qui est supérieure à Boston qu'à Dallas. Parce que quand Kyrie est arrivé, personne n'y croyait. Hein, donc, alors évidemment, la magie opère en ce moment. Donc on a l'impression que ça y est, c'est ce qu'il fallait faire, etc. Bon, doucement quand même. Hein. Parce que encore une fois, les deux sont. Parce qu'il y a aussi la gestion de la fatigue de Doncic, qui jusqu'à présent n'a jamais affiché un tel niveau jusqu'au bout. Parce qu'il joue trop, parce qu'il fait trop de
600
tout.
Minutes là.
Donc il y a quand même ce risque-là qui existe aussi. Hein.
Oui, mais l'avantage justement est Kyrie qui peut porter le ballon, qui peut créer un peu à la Luka aussi, et il peut prendre ses responsabilités.
Donc ils ont un meilleur duo, mais ils vont perdre la finale. C'est ce que tu viens de nous dire, Fred. Félix, qui serait favori?
C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais c'est pas loin.
Ah, ce serait pas question de duo, ce serait vraiment question de collectif. Et je pense quand même que le collectif de Boston est au-dessus en cas de potentiel final. Et je pense surtout qu'en plus que Boston, c'est
le fait qu'ils aient détruit le collectif de Minnesota ne vous
ça me fait changer d'avis, et surtout aussi la façon dont je vois la marge de Boston face Indiana. Je demandais pas à ce qu'ils gagnent tous les matchs plus 20, mais tous les matchs ont été serrés, et les deux derniers voire même 2,5 sans Haliburton à Indiana, et ça
après,
m'a un petit
Indiana,
peu
beau collectif, attention hein.
Beau collectif, mais
et puis ça court ça va dans tous les sens. C'est exactement ce qui ne convient pas à l'équipe de Boston. Ça va jouer un rythme un peu plus calme, tranquille, c'est le rythme de Lucas quand même, du côté des Mavs.
Mais de voir, hormis le match 2 où il y a un écart de plus de 10 points, c'était serré à chaque fois, et je me dis, peut-être que Boston, qui était quand même censé être plus frais, on avait parlé un petit peu
après,
de la
c'est
suffisance.
C'est quand même une finale de conf. Hein. C'est quand même... affronte a priori ce qui se fait de mais mieux.
Indiana
après
qui a été
quoi,
poussé par l'Enix au bout d'un match 7 et tout, je m'étais dit quand même qu'il n'y ait pas au moins un ou deux matchs sur ces 4-0.
Il y en a eu un, le deuxième est
le deuxième, plus
tranquille.
15, mais tu vois, j'ai trouvé quand même que Boston a finalement peut-être pas tant de marge de manœuvre que ça.
Et non, mais sauf que dans les moi, ils m'ont impressionné sur le moment chaud. Parce que justement, ils sont dominés à chaque fois. Pour moi,
le match 3, ils sont derrière de 8 points, 2 minutes de la fin.
Ils doivent perdre 3 matchs sur ces 4-là, Boston. Mais ils ne perdent pas.
Donc,
la régularité, la dureté, ils sont quand même là.
Mais justement, parce que l'exécution en fin de match aussi, l'exécution de mon état, mais ça, c'est fort aussi. C'est la marque d'une grande équipe.
Mais dis-toi qu'ils ont quand même failli en perdre, parce que le 4-0, je ne dis pas qu'il est miraculeux, mais ça peut être.
On
peut être à 2-2.
Pour moi, c'est miraculeux.
On peut être à 2-2. Et là, quand tu vois la maîtrise de Dallas face à Minnesota, qui quand même venait de sortir le champion.
Mais concrètement, beaucoup moins talent offensif du côté de Minnesota, beaucoup moins talent offensif. Oui. Donc si tu as Carl Anthony Towns qui est dans les choux comme il l'est actuellement, et Anthony Edwards qui n'est pas au meilleur non plus de son niveau, bah, ça complique la tâche quand même.
Alors le talent offensif de Minnesota, on va l'évoquer dans le deuxième débat, puisqu'on est toujours sur les finales NBA. Évoquons le cas Rudy Gobert tout de suite.
The Kia Defensive Player of the Year from the Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert.
Rudy Gobert, Utah Jazz.
Rudy Gobert.
Rudy Gobert.
Gobert right down Hennepin. Dunk and the
foul. The most overrated player in the NBA, Rudy Gobert.
Gobert est-il payé au juste prix?
I don't need you to be a great help side defender. That trophy says Defensive Player of the Year.
Rudy sucks, not me.
Is it because he's French?
Gobert inside. Oh, the little euro. From the Frenchman over to Gobert, left hand hammer.
If Rudy Gobert was guarding Shaquille O'Neal one-on-one, Shaq would be arrested for what he'd do to Rudy Gobert.
Let's go, Bear. In the air, good shot clock at 2. Good shot. Oh my goodness, he's got 11.
Big shout out to Big Rue, man. Big Rue hit the turnaround on the air. God.
Alors, la NBA est-elle trop sévère avec Rudy Gobert? Pourquoi cette question? Alors, on est sur la série, la finale à l'Ouest, Dallas en train de calmer les ardeurs des Wolves, et Rudy Gobert en prend encore pour son grade. Cette fois-ci, c'est Luka Doncic qui s'est moqué du français après une action défensive de Doncic sur Gobert. Hein. C'est donc le monde à l'envers, et c'est aussi pour ça qu'il a eu cette réaction, le Slovène. Gobert, qui est tout de même 4 fois défenseur de l'année, ce qui a donc marqué l'histoire de la NBA dans les années 2010-2020. Eh bien, il continue d'essuyer de nombreuses critiques et ce sera le cas, je pense, jusqu'à la fin de sa carrière. La NBA est-elle donc trop sévère avec Rudy Gobert ? Vous allez me donner votre avis. Après, un petit rappel de l'actu avec Arnaud Valadon. Quelles ont été les principales critiques subies par Rudy ?
Est-ce qu'on a deux heures ? Parce que franchement, pour
déjà, commence par cette saison.
Oui, Draymond Green et Shaquille O'Neal sont quand même les premiers à dénigrer le français sur le plateau de TNT. Cela fait plusieurs années et on est quand même pas très éloigné de ce qu'on appelle du harcèlement. On se souvient quand même que Green avait cette saison commencé à étrangler Gobert sur le terrain. Gobert avait déclaré que Green avait eu un comportement de clown. Sur les récentes déclarations, Shaq qui a commenté une tentative de dunk de Gobert durant ses playoffs, oh, 2m16 et tu te fais contrer. Plusieurs fois il a dit qu'il était un défenseur surcoté. Il avait dit limiter Jokic à moins de 15 points et limite Jokic à 15 points et là on pourra parler. Tous ces contres sur le côté faible, c'est bien, mais ça ne marche pas contre des joueurs comme moi, Joker ou Embiid. Green en avait rajouté notamment lors de cette finale de conférence. On parle de Karl Anthony Towns qui doit se coltiner Nikola Jokic, un pivot, alors que le DPOY, un pivot, est dans ton équipe. C'est comme si Marcus Smart DPOY à l'époque, en 2022, et qu'on disait Jalen Brown, tu dois t'occuper de Stephen Curry. Alors c'est vrai que Green a mis un peu de dos dans son vin très récemment. Il a dit Rudy Gobert n'est plus nul en défense, et tu faisais référence à
il
Luka.
A beaucoup de dos dans son vin quand même. Voilà. Il n'est plus nul.
Voilà.
Il est mauvais.
Juste. Il est juste, voilà, il n'est plus nul. Et en match, Luka s'est moqué de Gobert parce qu'à un moment, Gobert a voulu jouer Luka au poste et il a perdu le ballon. Et alors là, le visage de Doncic montrait qu'il se moquait du français puisqu'il ça faisait un peu en mode t'es sérieux en regardant le banc des Wolves. Beaucoup de joueurs NBA le pensent surcoté. Il y a eu un récent sondage, même si l'échantillon est restreint, mais surtout beaucoup sont jaloux de son contrat à 200 millions de dollars sur 5 ans et estiment qu'il ne les vaut pas.
Très bien. Alors, est-ce que la NBA est trop dure avec Rudy Gobert, Félix?
Bien sûr, évidemment. Et je pense que la principale raison de tout ça, ça se situe dans ta dernière phrase, Arnaud, c'est son salaire. Pour moi, c'est vraiment le nœud du problème. Parce qu'un Rudy Gobert, et là, il est à 45 millions l'année. Un Rudy Gobert à 25 millions l'année, personne n'en parle jamais. Enfin, il n'a jamais aucune critique.
Même avec les 4 titres de meilleur défenseur de l'année?
Ça, c'est un autre truc. J'allais y venir après. Je pense que ça le dessert un petit peu. Parce qu'évidemment, quand t'es 4 fois DPOY, derrière, après, en fait, si tu te fais prendre un shoot clutch sur la tête ou tu te fais dunker dessus, évidemment, tu vas te prendre des critiques. Ça le dessert un petit peu. Mais après, ces DPOY, il les a, ils sont de son armoire à trophées. Il les a pas volés, il les rendra jamais. Mais je pense que ce flot de critiques, c'est avant tout son
salaire. De la jalousie,
pour toi. Et bien sûr, c'est de la jalousie. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui voient son niveau offensif à Rudy Gobert, qui est plutôt limité. Hein, Rudy Gobert, dès que tu t'écartes du cercle, c'est très compliqué.
Mais il y a plein de joueurs qui le disent. Problème, hein.
Rudy Gobert, il n'arrive pas à planter un panier à plus de 3 mètres du panier et il touche 2-3 fois plus que moi. Je pense que le problème, il est là.
Alors, son salaire cette saison, c'est 41 millions, ce qui fait quand même le 13e plus gros salaire de la NBA. Hein.
Mais juste derrière, parce que j'ai la liste en même temps, Pierrot, je vais vous donner ceux qui gagnent moins que Rudy Gobert. Tu as derrière lui Fred Van Vliet, Anthony Davis, Luka Doncic. Bon, là, tu peux dire petite anomalie, mais Luka va
Davis,
rectifier ça.
Et Anthony Davis, l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux.
Voilà. Zach LaVine, Trae Young, Tobias Harris, Ben Simmons, Pascal Siakam, Kyrie Irving, Jrue Holiday, Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Kristaps Porzingis. Est-ce que, franchement, quand on voit l'apport de Rudy, on peut se dire il est largement surpayé par rapport à tous ces mecs-là?
Moi, je pense que ce n'est pas le nœud du problème.
Ça
a compté, mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit le nœud du problème. Mais Fred,
tu sais quoi, Pierre, j'en ai marre. Et pourtant, je suis un vieux. J'en ai marre. Non, j'en ai marre de ces vieux qui ne comprennent pas que la vie a changé, que les contrats ont changé et que ce n'est pas de la faute de Rudy Gobert si maintenant on lui donne plein de thunes pour faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas volé l'argent, il est 4 fois meilleur défenseur. À un moment, il fait le taf qu'on lui demande de faire. Tu veux que Rudy Gobert soit le meilleur joueur du poste bas? Bah, tu n'as rien compris au basket, parce qu'il ne le fera jamais. Il ne sera jamais capable de faire ça. Mais est-ce que pour autant, c'est un mauvais joueur de basket dans le sens où il apporte à son équipe? Bah non, ce n'est pas un mauvais joueur. Non, évidemment que non. Il est là, il est important, il fait des efforts. Même Draymond Green a essayé de faire un compliment. Alors ça lui a écorché la bouche, mais il a essayé de faire un compliment parce qu'il se rend compte qu'il y a eu des efforts de fait, qu'il fait le taf. Encore une fois, il y a deux choses. La première, son contrat est énorme. Oui, pour un mec qui, franchement, on ne va pas se mentir, qui est très frustre en attaque, et qu'il n'y a pas beaucoup de moves de haut panier, oui, c'est compliqué, je comprends. Sauf que s'il t'apporte de l'autre côté, s'il te permet de faire les bons écrans, s'il te permet de progresser avec ton équipe quand il est sur le terrain, eh ben, il mérite l'argent qu'on lui donne. Et de toute façon, Tu crois qu'on donne de l'argent comme ça pour le plaisir? Parce que si c'est le cas, je vais demander un meilleur contrat à RMC.
Non, mais après, je pense pas que ce soit que de la jalousie sur son contrat, parce qu'en vérité, les critiques, je suis désolé, sur cette série, elles sont totalement justifiées.
Et il est le sixième meilleur marqueur de son équipe. Hein.
Il est le sixième meilleur marqueur de son équipe. Bon, à la limite, c'est pas trop grave. Ses stats en série, cette année, c'est 12 points et demi, 10 rebonds et demi. Ok, sur les
il
sur
est
les
en double, double donc, t'es en train
voilà.
De
dire. Mais sur la finale face à Dallas, il est à 12,5 en points et à 7,7 au rebond. C'est-à-dire que même au rebond, il ne domine pas. Et quand tu vois les matchs, il est totalement absent dans cette série. Je suis désolé. Le problème, c'est que quand Rudy Gobert n'a pas son impact défensif, personne ne va lui en vouloir de ne pas être capable d'avoir du mal à défendre sur Jokic ou Doncic, puisque c'est le cas de tous les joueurs de la planète. Soit. Sauf que si il n'arrive pas à les arrêter et que il ne compense pas par un apport offensif, évidemment qu'il devient un problème. Évidemment, en termes de sur l'équilibre du match, il y a un souci, évidemment.
Mais il n'y a pas de souci, tu sais ce que tu prends quand tu prends Rudy Gobert, ou alors tu n'as pas de vidéo chez toi, et que d'un seul coup tu t'es dit, tiens, le grand français là, c'est sympa.
Sauf
mais non,
que...
il faut complètement être fou pour se dire, Rudy Gobert, ça va être mon meilleur scoreur.
Mais sauf...
ça va être le jeu. En fait, la défense, c'est pas ça. Ça se voit que tu n'as pas joué au basket. Un défenseur, c'est pas forcément un mec qui prend pas de panier sur la gueule, déjà.
C'est la dissuasion.
Un défenseur, ça switch beaucoup. Rudy Gobert, parfois, il est loin. C'est pour ça qu'il prend pas de rebond.
Soit,
mais donc à un moment, il y a des
et Dallas shoot à 51%
enfin,
sur cette série.
Sur cette série, il a 7,7, soit moins que Anthony Edwards sur le rebond. Hein, je parle du rebond, hein, de moins que Karl-Anthony Towns, à égalité avec Doncic, à égalité avec Lively qui joue 20 minutes par match contre 34 à Rudy. Il y a quand même un souci. Tu vas pas me dire le contraire. Dans cette série, je ne le vois jamais. Je ne le vois jamais, c'est-à-dire que son tir clutch là, son fadeaway, qui est son action du match, c'est de la chance. Donc quand ton action du match c'est de la chance, il y a un souci. Donc moi je suis pas en train de dire que c'est un mauvais Rudy Gobert. Tout le monde connaît ses qualités offensives, mais dans une ligue qui fait la part belle à ce que tu décrivais dans le débat d'avant, Fred, il est inexistant. Donc les critiques, elles continueront et elles continueront jusqu'au bout et il faut juste qu'il s'y habitue, qu'il les accepte, qu'il continue de faire son jeu parce que je ne dis pas qu'il sert à rien, loin de là, on sait exactement ce qu'il apporte, sauf qu'il n'y a jamais rien d'autre et que quand tu vas te faire massacrer par une équipe qui a gagné un match offensivement et que tu es le meilleur défenseur de l'année, et ben c'est normal qu'il y ait des critiques et donc la ligue n'est absolument pas trop dure, elle est parfois débile, Draymond Green est un débile et quand il s'en prend à Rudy Gobert, bon et ben j'ai aucun problème à prendre la défense de Rudy Gobert, mais dire que globalement les critiques ne sont pas justifiées, je pense que vous avez trop,
mais moi,
vous avez un regard trop chauvin.
Je suis pas en train
c'est
de dire
que de l'amour
mais,
et on l'aime tous, Rudy Gobert.
Mais
les critiques, elles sont justifiées.
Je suis pas en train de te dire que c'est parfait ce qu'il est en train de faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que ça me choque qu'on veuille encore maintenant demander à Rudy Gobert de faire des choses qu'il ne sait pas faire.
Et oui, mais alors, je suis désolé, moi je le vois de temps en temps faire un alley-oop ou simplement monter au panier, détruire le cercle et monter sur la gueule de mecs qui n'ont pas son physique. Donc moi je pense qu'au fond qu'il en avait la capacité, en tout cas la capacité d'en faire plus de ce point de vue. Parce que parfois sur des séquences sporadiques, tu le vois le faire. Mais pourquoi?
Mais il faut qu'il ait les ballons. C'est ce qu'on lui. Il n'est pas au centre du jeu, le plus scandaleux quand même sur cette série. C'est Karl-Anthony Towns.
Il est capable de le faire. Il est capable de le faire puisque parfois il le fait et même
mais,
en équipe
oui,
de France.
Il n'est pas considéré comme une option offensive.
Offensivement, il a des problèmes d'appui. Clairement, ça se voit quand il joue dos au panier. Il a des problèmes au niveau des hanches. Il peut pas bouger. Il a pas du footwork. Donc parfois, quand tu crois qu'il peut remonter directement au dunk, il peut pas parce qu'il a ce problème d'appui. Tout simplement. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Moi, je trouve ça un petit peu injuste. Nourris-le comme tu nourris Lively, tu verras qu'il te fera des meilleures stats.
Mais s'il le. Enfin, moi, je demande que
mais
ça.
Il faut le nourrir. À un moment, il n'est pas
mais
nourri.
C'est pas qu'une question de stats après, c'est une question d'impact sur la rencontre.
Et style de jeu, parce qu'il y a à la fois.
Parce que l'impact peut être défensif, il n'y a aucun souci. Hein.
On parle
mais
de
il est à 1 contre de moyenne. Hein. C'est pas non plus.
Parce que c'est la façon dont Dallas joue.
Tu sais quoi? J'ai joué pour Bojan Markovic. Il m'a dit le plus mauvais défenseur sur le terrain, c'est celui qui contrôle le plus. Et je dis pourquoi?
Parce
que c'est celui qui est en retard tout le temps. Mais toi, tu serais en retard tout le temps et tu serais super content quand même. Tu dirais, je suis contre-heure, c'est pas grave. C'est beaucoup plus compliqué.
Mais alors, le contre
que
tu fais, qui est spectaculaire et qui va en tribune, tu récupères pas la balle. Hein.
Mais au bout d'un moment, si t'es le meilleur défenseur de la ligue et que t'as pas le meilleur stats ni au rebond ni au contre et que ton équipe et que l'équipe adverse n'a pas de difficulté à scorer, bon, bah, il y a un problème d'impact sur la rencontre quand
oui,
même.
Tu parles sur trois matchs, Pierre. Parce que là, les critiques...
Ouais, mais c'est les plus importants.
Oui, mais déjà, il n'y a pas que lui qui passe à côté. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des autres aussi?
Justement, en fait... 42 Towns.
Là, alors, parlons-en.
Tout le problème... 27% au tir.
Ouais, non, mais tout le problème de ce débat, il est que justement, on peut être dur avec Rudy Gobert. Mais je pense qu'on est trop dur et injustement dur. Parce que là, lui, il prend tout. Quand tu vois toutes les critiques aux États-Unis, c'est lui qui prend tout. Et en fait, derrière, en fait, Towns et Edwards aussi, ils ont peut-être le droit. Et eux, pour le coup, en attaque, ils sont capables.
Mais Anthony Edwards est en dessous de ce qu'il nous a montré en 2015.
Oui, mais lui, sinon, il est jeune encore.
Il serait beaucoup moins cher.
C'est la première option offensive de cette équipe. Donc forcément, il va être ciblé. Mais tu vois, par exemple, Draymond Green, dans le passage tout à l'heure, il explique, il dit « Ouais, c'est pas normal que ça soit un Karl Anthony Towns qui va défendre sur Jokic et que ça soit pas Gobert. » Mais c'est juste un débile de dire ça.
Ouais.
En fait, c'était le système de jeu qui voulait que Karl Anthony Towns soit sur lui pour que Gobert puisse flotter et puisse aider. Sauf que ça se voit pas dans les statistiques. Les mecs comme toi qui lisent que les statistiques, qui s'intéressent pas au basket vraiment, eh ben, ils le voient pas ça. Toute cette tête, ce drop qui a permis à cette équipe de s'imposer.
Je suis allé voir les statistiques pour voir si mon ressenti devant les matchs était confirmé par les chiffres. Et malheureusement pour toi, ça a été confirmé. Parce que je suis désolé, Rudy, dans cette série, tu le vois pas beaucoup, Fred.
Mais il est peut-être dans le dur, il y a des moments où t'es dans le dur aussi, parce qu'encore une fois, parce que c'est un joueur, qui ne va pas transcender son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, l'équipe va bien, il va l'aider à aller mieux. Par contre, l'équipe va pas bien, il va se mettre un peu au diapason, il va être un petit peu en dessous.
Ça, il a besoin du collectif, en fait. Et si le collectif est à la peine, comme celui de Minnesota actuellement...
Le ballon ne circule pas.
Après, ce qui est sûr, la pierre, on va te rejoindre, c'est qu'il peut pas sublimer un collectif. Ça, par contre, et tu pourrais peut-être attendre.
Oui, mais il a réussi.
Non, mais tu pourrais attendre un mec à 45 millions d'années, peut-être, qui sublime un collectif.
Il sublime défensivement, sauf là.
Mais je suis désolé, il a réussi à le faire sur certaines campagnes de l'équipe de France. Donc, je vois pas pourquoi on considérerait ça comme une fatalité, en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y a de fatalité à ce qu'ils subissent comme ça, non. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Dans les moments importants, les meilleurs vont faire gagner l'équipe. Donc,
oui, mais c'est pas son rôle. Dans les moments importants, il ne doit pas toucher le ballon. C'est pas lui toucher le ballon.
Sauf que peut-être
c'est Anthony Edwards, c'est Carlton Towns, c'est même Conley, c'est
Matt Daniels.
Et en cinquième position,
au bon moment,
en cinquième position,
ce sera
Gobert. Non, mais t'abuses. Qui stoppe Doncic?
Eh ben voilà, c'est ce que je disais.
Non mais c'est trop facile de dire
qui
ça.
Qui stoppe Jokic?
Mais à un moment.
Personne, on est d'accord.
Et donc.
Mais donc les critiques sont justifiées.
Mais non, mais par contre, je suis rejoint sur un seul truc. Sa communication. Il a un vrai problème de communication. Depuis le coup du Covid, je trouve qu'à chaque fois qu'il s'exprime,
là, c'est les amendes avec les arbitres.
Il est pas. Honnêtement, sa communication, elle est à revoir complètement. Mais je trouve qu'on lui tombe dessus très méchamment. Et encore une fois, je me répète, parce que c'est des vieux et qu'ils n'ont pas connu l'abondance d'argent qu'il y a maintenant.
Parce que bon, Shaq, il se plaint de 1m16, Shaq, s'il ne faisait pas ses mensurations et ses 140 kilos à l'époque, c'était un joueur, il n'avait pas vraiment de main, Shaq, au lancer.
Alors Shaq, dos au panier, c'était un monstre, parce qu'il avait un footwork incroyable. Oui. Et c'était aussi, il les faisait 2m16, mais il massacrait tout le monde.
Oui.
Bon, pour finir, puisque je pense qu'on a fait le tour sur Rudy, Karl Anthony Towns, on n'est pas non plus ultra étonné qu'il y a un moment ça plafonne, non? Parce que c'est pas non plus un joueur.
Non, mais je pense qu'il s'est cru, il s'est cru être un shooter. Il prend beaucoup trop de shoot à 3 points. Le mec, il agresse plus le panier. Il s'y est cru. Je pense qu'à un moment, ils se sont dit, on va aller en finale NBA sans problème parce qu'on a la meilleure équipe et qu'on va jouer soft. Sauf que Karl Anthony Towns, quand il est un petit peu dur, c'est un exceptionnel joueur, franchement, offensivement. Mais quand il n'est pas dur, il est nul.
Alors, pour qu'ils aillent en finale, il faudrait remonter un déficit de 3-0, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de la NBA.
No team has come back from a 3-0 deficit in the NBA to win a playoff series. The Celtics are now halfway to history.
Wallace for three. Here's Wallace for three. And he hits. Second three-point basket of the game for Rasheed Wallace. The Trailblazers, 98 and the Mavericks, 79.
Rodgers will try another three.
Oh!
It's off to Smart for the seventh game. Commander tipped in. The light was on. It'll be reviewed. The Celtics are going to win. There's a game seven back in Boston.
People here are absolutely stunned.
Alors, je vais vous rappeler deux lignes historiques qui sont dans l'actualité là sur cette année 2024. Jamais les deux finales ne se sont terminées par un sweep et ça va peut-être être le cas si la nuit prochaine Dallas emporte le match 4. Et donc, jamais aucune équipe n'est revenue d'un 3-0. Mais certaines sont passées tout près et on va donc revisiter trois séries de play-offs. C'est Félix qui démarre avec l'année 2003.
On va commencer justement avec Dallas qui est impliqué dans cette série. Premier tour des playoffs 2003, Dallas est troisième, Portland est sixième de la saison régulière. Donc à Dallas, pour resituer un petit peu, on a du Nowitzki, on a du Nash, on a du Michael Finley. Côté Portland, on a du Rashid Wallace, du Zach Randolph, du Arvidas Sabonis, du Damon Stoudemire ou encore un petit Scottie Pippen qui traîne dans le coin là, en fin de carrière. Dallas, donc, qui avait l'avantage en saison régulière, qui était troisième, mène 3-0 au bout des trois premiers matchs, avec notamment 46 et 42 points de Dirk Nowitzki dans le game 1 et 3. Donc tout se passe bien, 3-0, tu dis, notre leader est là, tout va comme sur des roulettes.
Arnaud, il se marre déjà.
Sauf que, en fait, Portland revient. Plus 19 au game 4, plus 4 au game 5 et plus 22 au game 6.
À l'extérieur, à l'extérieur et après, 6 à domicile, ouais. C'est ça
Oui,
non,
c'est ça.
Peut-être qu'à l'époque, tu faisais 2-3-2, non?
Oui, ça, j'ai pas regardé le.
En finale exactement.
Ouais.
C'était en finale.
Uniquement en finale?
Je pense que c'était encore.
À mon avis, 2003, ils ont dû faire les 3 à domicile, non? Enfin, je sais pas.
En tout cas, ça revient à 3-3 avec notamment un plus 22 dans le game 6. Donc là, on se dit que c'est complètement, l'ordre est complètement chamboulé. Rien ne va plus à Dallas. Le game 7, Portland mène de 2 points dans le game 7 à 12 minutes de la fin, donc au début du 4e quart-temps. Là, tu te dis, ils vont le faire. Mais non. Portland finit par plier et ils vont perdre 107 à 95. Ils le font pas. Dallas derrière ira jusqu'en finale de conf. Ils gagnent au deuxième tour, ils gagnent au game 7. Ils finissent par plier en finale de conf contre les Spurs 4-2. Mais voilà, cette année-là, je pense que vraiment Portland qui revient en plus avec des gros écarts hein, sur les matchs où ils reviennent. Tu mènes dans le game 7, mais tu finis par rompre.
Redis-nous les franchise players. Il y avait Zach Randolph.
Il y avait du Zach Randolph, il y avait du Damon Stoudemire, du Rashid Wallace.
Scottie Pippen.
Rashid Wallace, ah oui.
Ouais. Rashid.
Et du côté un peu des vétérans, on avait du Arvidas Sabonis. Et, voilà, du
c'est pas non plus l'équipe de l'année, on est d'accord. Hein,
Il y a quand même des jeunes loups et des
joueurs,
vétérans.
Très bon joueur,
c'était une bonne équipe.
Bon, on était bien en format 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. 2-2-1-1.
Voilà. Okay.
En fait, je me marrais parce que il y avait un côté presque annonciateur de la loose de Dallas pendant très longtemps. Parce que souviens-toi, les finales 2006, 2007, numéro 1, premier de la saison régulière en la conférence Ouest, ils sont battus dès le premier tour. Donc c'est pour ça que je souriais sur la loose Dallas.
Alors, Fred, tu vas enchaîner avec une série qui remonte là. Hein. Alors, on repart combien 30 ans en arrière.
On repart effectivement 30 ans
alors,
en arrière.
Là, du coup, on se rend compte que les années 90, c'était il y a 30 ans. Pour nous, c'est hier, les années 90, mais pour les jeunes générations qui nous écoutent, c'est de l'histoire
ancienne.
C'était avant
leur naissance. C'était bien avant leur naissance.
Prends une voix un petit peu. Il y a 30 ans.
Donc tu m'as tué là sur cette action. Donc je vais parler d'une équipe qui aurait pu faire quelque chose d'incroyable en marquant l'histoire dans 2 tours de play-off de suite. C'est-à-dire que premier tour de play-off, on est en 94. Et je vais vous parler de l'équipe de Denver, qui termine 8e de la saison régulière, va affronter les Sonics. Mm-hmm. Alors on connaît un peu Seattle, on connaît un petit peu les joueurs majeurs, Peyton Kemp. Et jusqu'en 94, ça n'est jamais arrivé que le 8e élimine le premier. Quand t'es premier, en général, tu passes toujours le premier tour. Et bien ça va s'arrêter cette année-là, en 94, parce que l'équipe menée par Abdul Raouf, Lafonso Ellis, Reggie Williams, Bison Dell, Robert Pack et surtout Dikembe Mutombo. Ben, ça va éliminer cette équipe de Seattle, alors qu'ils sont menés 2-0 hein, pour commencer. Donc ils vont s'imposer.
Refais-moi l'équipe là. Parce que là franchement, autant j'ai dit à Félix que ce n'était pas une équipe
Abdul Raouf, super joueur. Lafonso Ellis, très bon joueur. Reggie Williams, très bon joueur. Bison Dell, je ne me rappelle plus très bien, je dois avouer. Je me rappelle
le blasé.
Robert Pack, super joueur. Et Dikembe Mutombo. Qui a un point commun avec Rudy Gobert,
quatre fois
meilleur défenseur de la Ligue.
Voilà.
Donc ils font, ils marquent l'histoire déjà.
Il ne sait pas toutes ces critiques, Dikembe Mutombo.
Non, à l'époque, au contraire, on trouve qu'il est, exceptionnel, Dikembe Mutombo. Alors, il est peut-être un petit peu meilleur.
Il était à 6 contre hein, quand même sur cette série. Hein.
Non, enfin, il est un petit peu à moins. Il est à 5,4 contre. Mais par contre, tu peux te tromper sur
cette série.
Ouais.
C'est correct, non
Ah oui, non, mais non, je suis d'accord. Il y a 6 contre sur la série contre Sonics, tu veux dire oui, effectivement. Contre les Sonics, il y a 6 contre de moyenne. Il faut se rappeler quand même que les Sonics.
C'est pas la même stat, non hein C'est pas la même stat, non
Ah oui, non, mais c'est monstrueux. Et les Sonics sont à 63 victoires et les Denver 42. Donc les deux premiers matchs, ils les perdent. Donc ils font quelque chose d'extraordinaire.
Donc arrive le deuxième tour.
Ils affrontent le Jazz. Le Jazz, on connaît un petit peu l'équipe. Stockton, Malone, Hornacek, Chambers, par exemple. Et là, ils sont menés 3-0. Et là, ça va continuer à être très compliqué parce que le match 4, ils vont le gagner 83 à 82 à la maison. Donc tu te dis, ok, ils se sont donné un petit peu d'air. Match 5.
Match
2,
défensif, donc.
Match défensif. Bah, match des années 90, tout simplement. Match 5, 2 prolongations. Et ils s'imposent. Match 6, ils vont le gagner un peu plus facilement. Et pour sortir d'un game 7, Karl Malone va nous faire un petit match à 31 points, 14 rebonds, 6 passes en 46 minutes. De l'autre côté, Motumbo aura baissé un petit peu sa moyenne de contre, seulement 5,4 contre de moyenne sur ses 7 matchs. Le Mailman va finir à 26 points, plus de 12 rebonds. Il va faire une série fantastique et ils vont s'imposer. Mais il aura fallu vraiment qu'il s'applique jusqu'au bout pour se débarrasser de cette équipe qui était très, très courageuse et avec un meilleur défenseur de l'année, encore une fois, Dikembe Mutombo.
Et ça finira par...
Battu par Houston en finale.
Oui,
de battu conf, par
Houston.
Et Houston champion.
Et Houston champion, les deux années où MJ n'était pas là.
Absolument.
Alors, peut-être que c'est l'année dernière, finalement, Arnaud, qu'on est passé le plus près.
Avec
retourner un 3-0.
L'invité surprise, hein, le Heat passé par le play-in, il s'impose deux fois à Boston, 123-116, 111-105.
Cette série était folle, quand même. Hein.
Incroyable. Incroyable parce que on annonce Boston un petit peu comme cette année la voie royale. Eh bien, ils perdent l'avantage du terrain. Enfin, ils font plus que le perdre parce qu'ils sont quand même menés 2-0. Et le Heat s'impose pour ce match 3, 128-102 avec un petit Jason Tatum, 14 points, qui reste quand même le meilleur marqueur de son équipe hein, avec 14 points.
Et donc, on est dans la même situation que Dallas-Minnesota en fait, c'est-à-dire
oui.
que Miami peut conclure à domicile.
On parle alors hein, déjà de la faillite du duo Brand Tatum, de l'inexpérience de Joe Mazzulla, propulsé coach suite au départ avec pertes et fracas de Ime Udoka. Le match 4, on est à Miami et Boston s'impose 116 à 99. Match 5 au Garden, ils le prennent 110 à 97. On est à 3-2, donc on se dit, alors peut-être. Match 6, totalement dingue, on est à Miami avec une victoire des Celtics quasiment au buzzer puisqu'il va rester un seul dixième derrière. Le jeu clutch, bah comme cette nuit, c'est Derrick White, puisque c'est un tir raté de Smart à 3 points, alors que Miami mène de plus 1, et le tir est un petit peu court et à gauche, et t'as Derrick White qui surgit en l'air, rebond, claquette, il met victoire 104 à 103 de Boston, qui arrache donc un match 7, là on se dit, ils vont le faire, ils vont revenir de 0-3, bah finalement non, ils vont pas réaliser l'exploit, les Bostoniens rapidement distancés, ils perdent 103 à 84 face au métier de Jimmy Butler et sa bande, 25 points, 7 rebonds, 6 passes sur la série pour Jimmy B, et le deuxième marqueur du 8, je sais pas si vous l'avez, Caleb Martin, 19
Caleb
points
Martin.
Ouais, sur cette série, Tatum et Brand ne retourneront donc pas en finale après leur défaite.
Il a fait quoi Tatum sur le match 7, je m'en rappelle plus, je me rappelle jamais.
Je l'ai pas, mais il a mais pas
regardé. Regarde,
il
a de battre,
il
y a pas de souci.
Il est à 15 points.
Hein. 15
de mémoire.
Points. Hein. Oui, il a fait 14 points sur le match.
Ouais.
Mais c'était pas le seul. Brown aussi avait pas fait de très grande série. Et finalement, on va faire des manœuvres puisque Jrue Holiday arrive cet été pour Boston.
C'est marrant que tu parles que des chokes alors que c'est le premier joueur de l'histoire à avoir mis 50 points dans un match 7. Mais ça, on n'en parle jamais. Bon, c'est pas grave, on pourra refaire un autre mais débat une autre fois.
Pourquoi
hein.
Parce qu'il a fait plus de chokes que de matchs à 50 points.
Ça, c'est ta perception.
Après, marquer 50 points et perdre, bon.
Ouais. Juste sur cette série, il faut rappeler quand même c'est que c'est la série de Jimmy Butler, hein, il me semble, hein, qui avait été incroyable pendant d'ailleurs tous les playoffs. C'est fini, Jimmy Butler, ou on peut encore entendre des grandes choses.
Je sais pas, mais j'ai bien aimé comme il s'est fait recadrer par Pat Riley sur 2-3 déclarations qu'il avait fait. Je pense qu'on peut encore l'entendre.
C'est son équipe qui est fatiguée ou c'est lui ?
Je pense qu'il est fatigué sur toute une saison. Je pense qu'il peut toujours être très performant sur des moments précis parce qu'il a toujours ce talent et cette capacité à se transcender. Mais sur toute une saison, je pense que c'est beaucoup plus compliqué.
Bien, nous allons terminer ce Basket Time par un quiz comme chaque semaine.
Ah, Carmelo Anthony au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Quel porciné peut shooter sans scrupule.
Quel croquet.
Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh, yeah, Nicolas. Russell Westbrook. Ah, ok, si.
Moi, j'aurais dit Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Alors, c'est un quiz sur l'actualité. Voilà, il n'y a pas de thème particulier, pas de question de culture générale, pas de question animalière, Fred.
On a parlé du bison.
Avec les loups, les bisons, les chats et les hornettes. Et donc, nous allons aussi, parce que c'est vraiment une info importante NBA, refaire la carrière de Bill Walton par le quiz. Ok, vous êtes prêts ? On commence par des questions faciles. Et vous y répondez chacun votre tour. Nous démarrons avec Arnaud Valadon. Vrai ou faux ? 1974, Bill Walton est le numéro 1 de la draft.
C'est vrai.
C'est vrai, absolument, mon cher. Il avait travaillé sur Bill Walton, non ?
Oui, là, oui. Je peux la donner à la franchise aussi, c'est une question.
Ah, mais... ne le dis pas. Ne le dis pas, parce que c'est pas la question, mais c'est pas loin. Mm-hmm. Félix, avec quelle franchise il gagne son premier titre, Bill Walton ?
Avec les Celtics ?
Ah non, avec Portland, son premier titre, 77. Fred,
oui.
Avec quelle franchise remporte-t-il son deuxième titre, Bill Walton ?
Bah avec Boston.
Avec les Celtics, les chéris Celtics.
Et j'adore Boston, moi. C'est Larry Bird, c'est un de mes joueurs préférés.
Alors, t'es préparé le terrain, Fred, en fait, là. Hein.
Oui, mais
en
fait, juste, ça va.
Alors, on passe à des questions un peu plus compliquées. Arnaud, vrai ou faux, son frère, Bruce Walton, a disputé un Super Bowl avec les Dallas Cowboys.
C'est vrai.
C'est vrai. Et c'est la seule fratrie à ce jour à avoir un frère au Super Bowl et un frère en finale NBA.
C'est beau.
Voilà. Donc,
des athlètes.
50 ans après, c'est toujours pas arrivé. C'est vrai. Tu ne le savais pas, tu as répondu au hasard.
Je me suis dit ça. Bruce Walton, Cowboys de Dallas, Super Bowl, c'était la grande période des Cowboys, donc pourquoi pas.
Vous savez que je suis capable d'inventer ce genre
d'absolument.
D'info. Vrai ou faux, Félix, l'année du seul titre des Blazers, 77, eh bien c'est la première fois de l'histoire de la franchise qu'elle se qualifie en play-off. Première fois en play-off, champion.
C'est faux.
C'est vrai.
La confiance dans le... C'est faux.
C'est et vrai. Ils ont même sweepé les Lakers de Kareem Abdul-Jabbar.
Propre.
Quand même pour la performance. Et enfin, vrai ou faux, Fred, Walton détient le record, écoute-moi bien, concentre-toi, hein, du plus petit nombre de matchs joués pour un joueur nommé MVP en fin de saison sur une saison à 82 matchs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Et MVP en 78, j'irais vrai.
C'est vrai, avec seulement 58 matchs joués sur 82, c'est le joueur qui a reçu ce trophée qui a le moins joué, parce que c'est un joueur qui a été très très handicapé par les blessures tout au long de sa carrière.
Il a joué à l'Embiid avant l'heure.
Et qui a dû écourter du coup sa carrière pour cette raison. Alors tiens, là maintenant on va passer sur les questions de spécialistes purs et durs. Tu regardes le score ?
Oui, je regarde.
Le score c'est 2 points pour Arnaud, 2 points pour Fred et 0 pour Félix.
Je vais chercher les points de Félix.
Vous êtes tous ensemble là et vous devez me donner une réponse la plus précise possible. Pour quelle raison Bill Walton a-t-il demandé de partir de Portland en 78 ?
Pour rejoindre sa femme.
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y a une question très précise. C'est pas exactement sportif. C'est pas pour aller faire.
Il était allergique.
Non.
Une raison de santé ?
C'est des raisons de santé.
C'est une blessure ?
C'est pas une blessure.
C'est l'avion ?
C'est plusieurs blessures. C'est pas l'avion. Non. Vous savez pas. Je vais vous le dire parce que vous êtes en train de galérer. Il accusait la franchise de Portland de mauvais traitements, d'être responsable de sa mauvaise santé. Il a même poursuivi en justice le médecin. Ils se sont arrangés à l'amiable, hors des tribunaux. Autre question sur la carrière de Bill Walton. Qu'est-ce qu'il considérait, Bill Walton, comme le plus gros échec de sa carrière ? Est-ce que vous le savez ?
C'est un titre universitaire ?
Ouais. Non.
J'aurais dit ça aussi.
Non, mais tu, en grattant un peu, tu peux trouver.
C'est de ne pas avoir été meilleur scoreur universitaire ?
C'est de ne pas avoir fait quelque chose. C'est
de pas avoir...
MVP des finales ?
Non. Allez, alors, c'est pas sa carrière universitaire, mais... Vous savez qu'il a fait son université à Los Angeles.
Oui.
Voilà.
Et ça. Tu n'as pas été drafté par Los Angeles.
Non, mais tu te rapproches.
De pas avoir été diplômé.
Qu'est-ce que tu as dit, Félix ?
De pas avoir joué pour une fac précise.
Non.
De pas avoir été diplômé.
Pas avoir joué pour Los Angeles.
Non.
Pour les Lakers.
Non, mais tu te rapproches.
Pour une fac de LA.
Pour pas avoir joué pour San Diego.
Il a joué pour les Clippers.
Ah ben.
Vous savez.
Mais pas, c'était pas à Los Angeles.
Alors d'abord San Diego, ensuite Los Angeles. Non, son plus grand regret, je vais vous le dire, c'est d'avoir été incapable de faire gagner un titre à Los Angeles, sa ville adorée. Il a une déclaration assez incroyable. Il a déclaré « C'est une tache et une stigmate indélébile sur mon âme. Je ne pourrai jamais l'effacer. Ce sera mon fardeau pour toujours. » Voilà quelqu'un
qui
est
exagéré quand même.
Un point de drama
Dernière question sur Bill Walton. Les Clippers échangent Walton contre Cedric Maxwell et un premier tour de draft. Savez-vous qui sera ce premier tour au final ? Est-ce que vous le savez ? C'est un joueur que vous connaissez très bien.
Larry Bird ?
Dont on a parlé, c'est pas Larry Bird.
Scottie Pippen ?
Dont on a parlé plusieurs fois dans ce podcast, c'est pas Scottie Pippen et que tu
Kevin
adores.
McHale.
Fred.
Kevin McHale ?
Non.
Clyde Drexler ?
Non, et qui finira à Portland.
Gary Payton,
par le plus grand des hasards, hein. Bah, c'est pas du tout.
Scottie Pippen.
Non.
Mutombo.
Non.
Bah non.
C'est un Européen.
Arvydas Sabonis.
Sabonis.
Drafté en 86, 24e choix de Boston par les Clippers, envoyé à Portland où il jouera seulement 10 ans plus tard. L'histoire, elle est folle. Et c'est Arvydas
Sabonis
qui est en fin de compte le remplaçant de Bill Walton. Et donc, ça fait 3 points pour Arnaud, 2 pour Fred et 0 pour Félix. On lâche Bill Walton. Question Merci. D'actu facile, rapidité. La dernière fois que Boston a été en finale, qui était le coach?
Ime Udoka.
Ah, Ime Udoka. 4 points pour Arnaud.
Rapide.
Ouais.
Question rapidité sur ces playoffs. Qui est le meilleur passeur des playoffs?
Haliburton.
Doncic.
Maxi.
Doncic. 3 points pour Félix. 9 passes de moyenne. 9 passes de moyenne.
Honnête.
Sur l'ensemble des playoffs. Tiens, je vais vous diffuser une interview. Vous allez me dire qui parle. Et si vous ne reconnaissez pas la voix, il faut se concentrer sur ce qu'il dit.
Some days I might score, some days I might rebound, some days I might assist, and most days I'm going to defend. So just elevates my game, and then man, my teammates really make it really easy, though.
Je I got that. Absolument.
I elevate my defense.
Voilà.
C'était soit lui, soit White. Je trouve que il y a une voix plus grave. Je relisais.
Mais c'est peut-être l'artisan numéro 1, peut-être pas, mais artisan très important du titre quand même de Milwaukee qui va faire gagner oui. Boston finalement.
Bah, tu vois Milwaukee, puis qu'il est parti. Hein.
C'était peut-être ça le secret de la réussite de Milwaukee.
Oh, oui, c'est possible.
Qui a déclaré « Notre objectif est de le garder ici pour 20 ans ». Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une déclaration d'actualité. Elle date, mais c'est un rapport vraiment crucial avec l'actualité. Qui
la boss des Lakers, Buzz.
Non, mais c'est en effet un propriétaire de franchise.
Le patron des Spurs, Peter Gerald.
Non. Réfléchissez.
Le patron de Dallas.
Mark Cuban.
Mark Cuban, j'accorde à Fred.
Et pour il n'est plus patron. Il a vendu.
Il a vendu, mais on voit qu'il devait se retirer un petit peu. On le voit quand même bien présent.
À l'époque, il l'était, car c'est une déclaration de 2019 qui concerne Kristaps Porzingis. et donc Dallas va peut-être se retrouver face à Porzingis. Et on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un élément déterminant de cette finale. Hein.
Et Kyrie qui va retrouver Boston aussi. Hein.
Et pourquoi ça n'a pas marché pour Porzingis à Dallas?
Bah, les blessures. Ouais,
en fait, Porzingis, ça ne marche qu'à Boston pratiquement.
Bah, et encore, il faut qu'il joue. Il a les blessures.
Honnêtement, je pense que au début, à New York, c'était fantastique. Mais... Jouer avec Lucas, c'est pas facile et que la circulation de balles qu'il y a à Boston lui convient mieux.
Donc on est à 4 points pour Fred, 4 points pour Arnaud, 1 point pour Félix. Il reste la question multipoint qui est difficile. Mais surtout, elle est très tactique. Donc vous allez réfléchir avant de donner une enchère, puisque vous allez marquer un point par bonne réponse, si vous avez votre enchère, si vous la validez, je veux dire. Vous allez me donner tous les entraîneurs champions avec Boston. Boston a 17 titres, mais il n'y a que 6 entraîneurs qui ont remporté un titre avec Boston. Donc, Félix, c'est toi qui vas donner la première enchère. C'est très tactique. Il faut que tu réfléchisses bien à ton enchère, parce que ce n'est pas facile.
J'en fais qu'un, là.
Et t'as 3 points de retard surtout.
Ouais, bah je vais commencer à 1. Je vais voir ce que me disent mes compères.
Fred.
Il déteste tellement cette manche.
C'est pas facile, mais en fait, en réfléchissant, vu qu'il y en a peu, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont plusieurs titres.
Ouais, bien sûr. Mais...
Ça peut vous aider.
Qu'est-ce qu'il a dit, Fred?
T'as dit quoi?
J'ai dit 1,5.
1,5, donc tu passes. Arnaud?
2.
2. Bon, t'es obligé de monter, Félix, pour gagner le quiz.
Ah, mais je pense que j'aurais pas...
10-4.
Non, j'aurais
mais
pas...
Mais on va t'aider.
Il peut te dire 3.
Fred.
Bah vas-y,
pareil,
Fred, toi, t'es chaud.
Si tu laisses 2, c'est Arnaud qui gagne le quiz.
Mais j'en ai qu'un.
Non, il y en a au moins 2. Il y en a au moins 2. Et moi, j'en connais 3. Bah, après, j'aurais été incapable de sortir le 3e. Mais il y en a 2 que vous devez trouver. Un 3e que vous pouvez éventuellement trouver. Et les 3 autres, il faut être ultra féru de NBA.
Et de Boston surtout.
Et de Boston surtout, ce qui est 3. Le cas de Fred.
3, moi je dis ouais.
Alors Fred, le fan des Lakers, va nous donner le nom des entraîneurs de Boston, champions avec les Celtics. C'est parti.
Casey Jones.
Excellent, mais t'en as sorti un.
Attends, j'en ai un autre.
Jones.
Alors,
non, mais là, maintenant, t'es obligé d'aller au bout, là.
Bill Russell.
Bill Russell, ouais. En tant que joueur entraîneur.
Ben, c'est facile. Ah, c'est facile.
Bah, quand même.
Le Doc.
Le Doc. Bravo, Fred. Alors là, tu m'as bluffé. Parce que je pensais que... Doc Rivers, c'était bon, le premier que vous avez me cité. Ensuite, il y a Red Auerbach, qui est la légende.
Je l'avais.
Des
ah,
mais j'avais plus celui-là.
Je l'avais.
C'est le blast que je cherchais depuis le début.
9, 10. Ah, j'avais 3. Ah, je suis nul.
Et après, Bill Russell, il fallait se souvenir qu'il a été entraîneur-joueur quand même.
Ça.
Et les deux autres, bon, Tom Ainson, qui a quand même 2 titres, et Bill Fitch. Fred, bravo, félicitations. Tu as été insupportable tout le podcast, mais tu as gagné le quiz.
Mais on t'aime.
Et c'est mérité. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.